Il y a un poème qui s'appelle Obituari.
Obituari.
Et on a l'impression qu'après le suffixe ari se retrouve pour créer des néologismes comme
Stiguatari.
Stiguatari.
Oui, j'aime de créer des néologismes, la martyr, pas comme on peut dire, ou quelqu'un d'autre. J'adore ça.
Donc l'été, c'est aussi bizarrement la mort. Et la mort.
L'été, c'est la mort. C'est ça, oui. C'est ça.
Et la mort semble omniprésente. C'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression que beaucoup de toutes vos références vous accompagnent, vous poussent à écrire, de tous ces morts autour de vous auxquels vous rendez hommage, provoquent quelque chose de fécond chez vous. Mais en même temps, il y a une présence morbide.
Morbide, non, pas non, mais oui, je suis une personne.
C'est assez paradoxal. Et par exemple, dans le journal du premier jour,
oui.
Vous dites « Passava me corpe de libras en fétons ».
Oui, parce que c'est vrai, je suis allé dans les cimetières de le Père Lachaise. C'est comme ça que je passais entre, comment dit le poème, « Passava me corpe de libras entre tombes ». De libras, de livres. Oui, je vous ai avoué que je suis fier de littérature. Et je le dis dans un poème, je ne suis et je ne peux pas être que littérature. Je suis fier de tous les livres que j'ai lus. Et j'ai dit, et c'est très important pour moi, qu'avant que poète, je suis personne. Et je suis une personne qui doit être une bonne personne. Et après, encore, je ne suis pas poète. Après, je suis un lecteur passionnel et passionné. Que quand il ne peut pas, j'écris, tu comprends? Et quand j'ai me promené par le Père Lachaise, je voyais les tombes des écrivains, ça. Et tout ça m'évoquait les livres de cet auteur que j'avais lu. C'est pour ça que je me promenais plein de livres entre les tombes. Tu te souviens, quand nous sommes allés au Père Lachaise, il fait le 19e siècle déjà, il fait beaucoup d'années. C'est ça. Et tous ces auteurs, oui, pour moi, c'était la fécondité. Je suis fait de tous ces auteurs. Et je suis un homme très, comme on se dit, on va dire, avec des filles, je suis un homme reconnaissant. Je toujours donne merci à beaucoup de clients qui m'ont aidé à être la personne que je suis. C'est pour ça que je parle de mes maîtres et je parle de littérature, comprends? Mais pas morbide. Et l'été est la mort, tu as dit quelqu'un, ça voulait, l'été c'est la mort.
Parce qu'on a l'impression aussi que la mort est omniprésente, mais c'est aussi le temps qui passe, que vous semblez regretter.
Oui,
qui se transforme,
oui.
Le touriste qui.
Oui, j'ai compris. Attention, Mila, je regrette, comme tout le monde, mon enfance. Femmes aussi, nous parlons beaucoup de ça, parce que nous avons ce linage déjà. Et nous regrettons une minor que nous avons connue, que nous avons habité, que nous avons aimé. Nous avons une origine profonde de notre île, mais on nous l'a changé. Mallorca, c'est foutu. Ibiza, c'est Sodome et Gomorra. Seulement qu'il reste minor. Notre île encore est pure et vierge, mais le tourisme, et je respecte le tourisme, je fais du tourisme, je suis allé quelquefois, le voyage aussi, mais je ne suis pas un touriste, je suis un voyageur, c'est différent. Et le tourisme, comment dire, il y a une expression que j'ai écrite dans un article, c'est une arme de destruction massive. Le tourisme, c'est une arme de destruction massive. Il y a beaucoup de côtés, beaucoup de liens dans l'Espagne, dans l'Europe, qui sont harassés par le tourisme. À Minorque, j'ai écrit dans un article, parce que j'ai écrit des articles dans les journaux, un article réivindicatif, quelqu'un politique, mais pas toujours de poésie. J'ai écrit « Bienvenue, bienvenue ». Tout le monde ici, parce que Minorque, c'est pas notre, c'est l'étude. Mais ce que j'espère, c'est que je demande c'est que qui vient à Ménorque aime l'île, nous aime, aime notre petite île, c'est ça. Et il y a personne, il y a des spéculateurs, des corrupteurs qui pourraient, mais non, c'est assez, c'est de ramener. S'il faut arraser un paysage très joli, c'est son problème. Il faut gagner de l'argent. C'est ça les dangers du tourisme. Et ça a passé aux Ingrès, ça s'est passé à Barcelone aussi. Il y a un excès. Et je sais que le tourisme donne le travail. Mais qu'est-ce qu'on fait à Ménorque? Ménorque, pour moi, c'est un être vif. Tu comprends? C'est ça. Et l'été, si vous voulez venir à Ménorque, vous serez bienvenus tous. Mais si vous venez, les mois de juillet et d'août, vous ne verrez rien. Vous verrez seulement un touriste. Je suis un saphir et la mer. Je suis un arbre avec Bango. J'écris, Van Gogh, il dit déjà. Il faut fouiller, on peut aller à certaines plages déjà. Il y a des plages qu'on ne peut y aller. Parce que c'est ça le problème. C'est pour ça que je parle du danger du tourisme. Les mois d'août et de juillet, à Ménorque, on dépense de l'eau d'une forme abusive. Et les réserves sont limitées. Nous sommes une petite île. Et les personnes viennent. Je m'exprime un peu. C'est ça le problème. C'est ça ma préoccupation. Et la dernière chose. Je connais, bienvenue, je les respecte. Mais je connais à notre village des personnes qui ont arrivé dehors. Il fait 40 ans. 40 ans, parce que je me souviens de quand ils sont arrivés en cherchant du travail, magnifique. Ils ne parlent pas une parole de Ménorque. Ça fait mal. Je ne dis rien. Mais quelquefois, quand il fait 40 ans que tu habites à notre village, que tu habites à Ménorque, où est l'intégration? Tu peux parler un peu de Ménorque. Fais de l'effort, au moins de comprendre notre langue. Si tu lui parles ménorquin, parle-moi en espagnol, s'il vous plaît, monsieur. Les catalans, c'est hein, l'espagnol aussi. Vous comprenez, je m'exprime. Eh oui, d'accord, c'est ça. Et pas morbide, je vois la joie, je vois la passion. La passion pour tout, hein, pour écrire, pour aimer, pour aller se promener, pour aller au cinéma, pour jouer à basket. Passion pour tout. Pour faire l'amour. C'est double aussi. Merci pour ta question. Merci de vous demander quelque chose. Oui. Comment tu t'appelles?
Laure. Vous avez parlé de. Merci déjà de vous être présenté. Assez émouvant pour nous d'étudier votre œuvre et de pouvoir parler avec vous.
Merci.
Et j'ai une question précise à propos de la métrique. Et du système de rime. Donc on a vu en cours qu'il y a un seul poème, Nymphoulas.
Nymphoulas, oui.
Où vous utilisez.
Inspiré à Nabokov. Oui.
Où vous utilisez le système de rime. Et
oui.
Je me demandais pourquoi ici et dans un seul poème.
Oui. J'ai deux livres antérieurs, par exemple, un livre qui s'appelle Desertenses. Et dans Deuxième Française, je me souviens qu'il y a un sonnet classique dans un autre livre qui s'appelle, c'est le premier que vais escriure, On s'acaba le sentir, il y a un autre sonnet, mais un sonnet classique, rimé avec la métrique. Mais faire de sonnet aujourd'hui, c'est une chose un peu dépassée déjà. Je crois à la métrique, pour ça que je vous ai commenté. Je m'ai inspiré à Winston Kierkegaard, parce que la métrique aide à ne pas se voler, il faut concréter. Mais la rime, je le fais quelquefois, comme une démonstration de dire, oui, je domine la technique, et je peux faire des sonnets, mais je cherche une autre chose. Et c'est curieux parce qu'il y a des poèmes qui tu ne les fais pas, c'est les poèmes qui te font à toi. C'est comme si les poèmes te disaient, hé, bon, viens. c'est toi ici et tu vas écrire-moi. Et tu vas m'écrire un rire, tu vas m'écrire. C'est le poème qui exige quelquefois la forme. Ça m'a passé. La forme, tu viens donner. Et ce poème, je me souviens d'une phrase, c'est un livre que j'ai fait avec un peintre. Et c'est difficile parce que les peintres, ils m'envoyaient une série de dessins, de dibujos, et avec ces dessins, je devais faire un poème. Et quelquefois, c'était difficile. Et quand j'ai vu cette nymphe-là, j'ai dit, il faut faire de la vie. Et je me souviens, je parlais libre, c'est l'illustrateur, il m'a envoyé un dessin qui était une femme. Et c'était une affiche de cinéma, une affiche de cinéma avec une femme, la solterona. Et j'essayais de faire les poèmes ne sortaient pas. Et je me mettais à dormir en pensant à cette dessin. Et une nuit, je découvert, voilà, cette femme est espagnole, est castellane. Je dois faire les poèmes en espagnol. Et je me suis levé, parce que je le fais beaucoup de fois, ma femme, je sais, à moitié de la nuit. Et j'écris tout de suite les poèmes en espagnol et en castellan. Et les poèmes sont sortis fluidement. C'était la langue. Quand j'ai découvert que c'était en espagnol, et les poèmes, je les fais en espagnol. Voilà. J'ai répondu. Merci. Je te promets que dans mon prochain livre, je vais faire un sonnet parfait qui s'appellera Laura. Sera le meilleur poème. Il va sortir à toutes les anthologies que l'on parle de moi. Merci. Les hommes, on peut faire quelques questions aussi. Hein?
Si
vous voulez parler de Pessoa, c'est une de mes grandes passions, Pessoa. Hein? Je le connais très bien, j'ai parlé beaucoup de fois avec lui, en portugais, avec Fernando Pessoa. Chez nous, c'est l'oncle Fernando. Chez nous, oui. Mon fils parle de Pessoa, l'oncle Fernando. C'est une anecdote ancienne. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre Pessoa, que es más importante que yo y que mi obra, evidentemente?
Oui, peut-être, qu'est-ce qui vous inspire particulièrement chez Pessoa, sachant que j'ai l'impression que vous avez, justement, je vois que votre poème, qui se compris, s'appelle Estrangeirado. Et c'est un mot que je pense qui est très commun à la boue et à votre. Poésie et celle de Pessoa qui justement insiste beaucoup sur cette impression d'étrangeté. Justement, pourquoi est-ce que c'est vraiment ça et pourquoi prendre le parti un peu inverse de Pessoa qui, vous, j'ai l'impression que vous cherchez toujours beaucoup plus de simplicité, l'épuration, la sobriété autour de vous, alors que Pessoa. Plus dans la multiplication de soi,
pour moi, Pessoa a été une découverte. Je l'ai découvert, merci à mon ami Perfecto Cuadrado, c'est professeur. Et pour moi, a été une passion, une amitié forte. Hein. Pessoa, c'est pas un génie. Pessoa, c'est un groupe de génies. Parce qu'on a découvert plus de 126 ou 120 et plus hétéronymes. Et encore, dans, je ne sais pas comment dire, cette marque, une française, une grande caisse, il y a un coffre, oui, c'est un coffre comme New York. Hein. Dans ces coffres, on a trouvé 25 000 papiers, manuscrits ou avec de la machine à écrire, et encore il y a de papier pour transcrire, pour publier, c'est extraordinaire. Chaque hétéronyme de Pessoa est différent. quelqu'un, Álvaro de Campos, si l'univers qui s'expande, et par exemple Ricardo Reis, c'est la concision, c'est la maîtrise. Pessoa a un domaine technique extraordinaire. Ce que je vous ai dit dans ma poésie, ce que je cherche, c'est le simple essentialité. Je ne vais pas écrire pour écrire. Non, je dis que ça c'est parfait, exact. Qu'il y a plus de sorte, d'accord? Et dans ces poèmes de Pessoa, il parle d'un sentiment que je n'ai pas vécu, je n'ai pas de fibres, c'est que j'ai souffert, que c'est la nostalgie. Je vais vous faire une confession. Quand j'étais plus jeune, je devais voyager pour conférence et j'ai souffert amèrement. Une fois, j'étais à Belinez, près de Madrid, et j'ai fui de non, à Liège. J'étais à Liège, je devais faire 7 jours à Liège pour tout payer, le meilleur poète de l'Europe. Un hôtel de 5 étoiles, c'était une occasion extraordinaire. Je devais faire une conférence, je suis à Liège, à Belgique, le premier jour, avec les cœurs, j'avais une nostalgie terrible, je voulais tourner. Non. Je fais la conférence et il me restait 7 jours pour connaître le meilleur point de l'Europe. Et j'ai donné une excuse et je suis fluide. Je dis, je le sais, mais j'ai parlé avec l'organisation, excusez-moi, on m'appelait de Minor, ma mère est confuse, ma mère est sonore, je ne dois pas. Sa mère, oui, il est très fou, je dois partir. Et j'ai parti. Parce que j'avais ce sentiment que Minor, quand on a une ignorance, j'avais nostalgie de mes fils, qui alors étaient jeunes fils, et nous avons 2 petites filles maintenant, hein, 2 petites filles. Je dorme avec une grand-mère déjà, hein. Dormons comme une abuela, ahora. Et Pessoa a ressenti toute sa vie cette nostalgie. Il a voyagé une fois à las Azores, à la Illa Terceira, parce que sa mère était de cette île, et il est allé à Tavira. Tavira, c'est près de Coimbra. Mais il n'a pas, bueno, il habitait, vous savez l'histoire, Sud-Africa, en Durban, ma quand il a tourné a Lisboa, in una sorta pari, è stato a Cascais, in un altro côté près de Lisboa, ma il ne sortait pas de Lisboa. Ma en 15 ans, il a habité 20 maisons différentes. Il se mouvait par Lisboa. Et ces sentiments de nostalgie, il a souffert amèrement. Et c'est pour ça qu'un jour je suis arrivé à Minor, que je dis à ma femme Rosée, je ne sortirai plus de Minor sans toi. Si c'est aller un jour à Barcelone et tourner, oui, peut-être. Mais si je suis allé, nous sommes allés à New York, on m'a invité à New York, faire un récital. Avec elle, avec elle, avec beaucoup de personnes, mais je lui ai dit, si tu viens avec moi, je viens à New York, ça soit je vous. Parce que quand je suis hors de Minor, je ressens cette nostalgie dans mon cœur et ça c'est très fort. Et c'est pour ça que j'écris l'histoire que j'ai gardée. Je parle de ça. Et c'est la même nostalgie que sentait Pessoa. Mais je te dis, Pessoa c'est un univers. Je suis un poète qui commence. Je suis un apprenti de poète.
Peut-être que c'est même un peu. Vous avez enthousiasmé Pessoa parce que, enfin, dans le sens où lui, même quand il est chez soi, chez lui, j'ai l'impression que ce qui le caractérise, c'est cette inquiétude en fait, constante, oui. Même quand il est immobile.
Cette inquiétude existentielle.
Alors que vous, ce qui vous inspire, c'est plus justement cette tranquillité.
Oui, c'est ça. Mais j'ai, comme on le dit, je dis, bon Pessoa, que dominant, je peux voyager pour tout le monde. Parce que j'ai des livres, j'ai des films, quand je suis à sa Figuera Verde, quelquefois je suis à sa Figuera Verde, mais Quelquefois, je me promène avec Virgilio, ou des gens. Oui, oui, je parle avec Virgile. Quelquefois, je suis. Un jour, il pleuvait. Et je me suis mise avec. J'avais beaucoup de chats, j'avais les chats Jean Ponsard, j'avais les chats Montalais, les chats Elliot. J'ai trouvé un chat gris, avec un lieu foutu. Il est venu, je lui ai donné de manger, il a resté avec moi. Et quand je l'ai vu, je connais ton nom, Jean Ponsard. Et j'étais dans ma cabane, tombé, j'écoutais pleuvoir, c'est magnifique, ces bruits. Et je fermais les yeux. Je me souviens que cette soirée, j'étais dans ma cabane et je me promenais avec Chimouski, le prix Nobel que je connais, que j'ai connu à Clima, j'avais une relation avec Chimouski. Et dans ma cabane, je me promenais avec Chimouski pour Irlande. Tu comprends? Je ne suis pas fermé. J'ai beaucoup de vie. Avec l'imagination, c'est ça. Mais, oh là, mes jeunes, j'adore mes langues. Et je sais que je vais essayer universaliser mon île, mon œuvre. Je ne suis pas autoniste. Je vois la littérature internationale. Et j'ai appris et j'ai découvert beaucoup de choses avec Pessoa. Pessoa, c'est un poète qui a encore, il a beaucoup de choses à dire. Il va nous donner une surprise encore. C'est un des meilleurs poèmes que j'ai découvert dans ma vie. Je l'ai traduit une personne. Je n'ai pas oublié la traduction, mais je l'aime une personne. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce qu'on a compris. Merci, Angela. Si vous voulez connaître quelque chose de personne, la Laura.
Pas
de personne,
mais par rapport à Saint
Figueiredo, qui est invité.
Et je voulais savoir quand est né Saint Figueiredo dans votre pensée, après concrètement, et pourquoi lui avoir octroyé ce nom, Saint Figueiredo?
Non, c'était mon sommet. Je l'exprime brièvement. Quand j'étais petit, j'allais beaucoup avec mon père. Mon père était une personne extraordinaire, d'une bonté. Je me souviens quand je parle de mon père. Et les samedis soirs avec mon père, parce que les samedis, pour les matins, il travaillait aussi. Et les samedis soirs, nous allons pour la campagne, nous promener avec mon père. Et je me souviens qu'on passait par des amis, on voyait des zapateros, socrates. Des chaussures.
Des cordonniers.
Cordonniers. Il y avait des cordonniers qui tenaient de petites maisons dans des champs avec un chien. Et quand nous passons, il Lorenzo, mon père s'appelait Lorenzo, il va tout pour ici avec ton fille, viens ici, assieds-toi. Et mon père, il s'assoit avec ce monsieur, et il parlait, il faisait un gym, c'est le. Et je jouais avec les chats, avec les chiens. Et cette image, j'étais petit, j'avais 7-8 années, et j'ai pensé un jour, je vais avoir une petite maison comme ça, je vais un morceau de terrain au champ. Et j'ai eu besoin de plus de 50 ans de travailler, parce que nous avons travaillé beaucoup avec ma femme, pour acheter ce figuier vert. C'était un des sommets de ma vie. Et quand j'ai acheté ces morceaux de terrain, qui est vierge, qui est sauvage, il y a beaucoup d'oiseaux, parce qu'ils me connaissent déjà, ils viennent me voir, parce que les oiseaux, ils savent qu'à ce figuier verte, on ne chasse rien d'animaux. Et les noms, c'était les noms anciens. Ce morceau de terrain s'appelait ce figuier verte, et je les ai les noms. Et quand nous avons acheté ce figuier verte, j'ai commencé à écrire et à parler de sa figuera verde parce que c'est les lieux. J'étais professeur. Et les matins, j'allais à l'institut, bien vêtu, je me mettais accès parce qu'il y avait des jolis professeurs, pas accès. Mais le soir, pour mon lit, les vêtements les plus vieux, je prenais mon vélo et je m'en vais chaque soir à sa figuera verde. à écrire, à lire, à penser, à se promener, à faire le paysan aussi. Il fait plus de 10 années que nous avons ce figuier de verre. Maintenant, je suis à la retraite et je fais les jours à sa figuier de verre. Et c'est pour ça le protagonisme, parce que c'est mon paradis, c'est ma patrie, c'est mon lieu dans ce monde, sa figuier de verre. Et je te dis que quand il se fait nuit, je n'ai pas d'électricité et j'écris avec des bougies, avec les chats, avec un chien que j'avais qui s'appelait Gunther. Parce que tous mes animaux ont des noms d'artistes. J'avais un coq qui s'était un crack sexual. C'était un coq, il s'appelait Gauguin. Et un jour, je l'ai trouvé mort d'une sobredose de sexe. Mais il mettait un visage de félicité. Je mets le nom d'un artiste à tous mes animaux. Et je me souviens de Gunther, l'ancien, enterré et sur sa tombe, c'est sembrado. J'ai semé un arbre. Et à Gauguin aussi, je l'ai semé parce que c'était un crack. Charles Disney, je ne veux pas dire ce qu'il fait, mais c'était fantastique. Et avec Gauguin, j'avais une relation très curieuse parce que, je ne sais pas de ma mère, j'étais un sédentaire, mais quand j'allais me promener avec cette figure de merde, Gauguin, il venait derrière moi. Et tous les autres poules, ils avaient 50, 60 pulls. C'est vrai. Tous les poules derrière Gauguin. Et Gauguin derrière moi. Et nous nous promenons. C'était magnifique. C'est ça l'importance de sa figure de merde pour moi. C'est un territoire très important. Bon, parce que ma femme, si j'exprime de cette figuette de verre, elle dit d'accord, non? Plus de questions? Si tu viens de Ménoc, alors on ira à cette figuette de verre. Tu connaîtras Van Gogh. Et non, tu verras sa tombe. Et l'arbre que j'ai semé sur sa tombe. Quelques questions de Pessoa, de la poésie, de le langage, quelques paroles, peut-être le français n'existe pas. J'ai eu un problème avec une parole que c'est salobre, salobre. On m'a traduit un livre en anglais, tous les livres. Le livre s'appelle Al Salobre. Et en anglais, on a mis le titre de salt. Salt, c'est salt. Salt. Et ça l'ordre, c'est pas ça. À Minorque, beaucoup de maisons sont faites d'une pierre de marès, une pierre calcaire. Et il y a beaucoup d'humidité à Minorque. L'humidité, ça nous vient de la mer. Et il y a des maisons anciennes ici, une sorte d'écume, comme une écume. De l'humidité, et ça c'est salobre. C'est typique de les anciennes maisons. Et cette parole n'a pas traduction, il doit travailler salobre. Salobre. Et c'est caractéristique de notre maison. C'est pour ça que j'ai mis ce nom typiquement de Minocan.
A la pàgina 62 del llibre de la família sí. Hi ha dues paraules que quan vam llegir el poema no vam acabar d'entendre què volia dir. Teníem la traducció en espanyol, però hi ha un moment que diu duia uns guarais blaus i està traduït com uniforme. Sí. Guarais què és exactament?
I
l'altra era conserva una olor forta a pell i enzim.
Sí. Si rai català, manteneu un poc. Si hablo català, m'entendeu un poc. Todos, quelqu'un,
T'ha dit tu, oui, un peu, català, enteneu un poc, Adrià, un poquet, molt poc, sí. Sí, un poquet. No, je vais parler français parce que c'est l'unique occasion que j'ai de parler français. Però bon, si quelques paroles je ne trouve pas... Oui, c'est vrai, ces deux paroles sont deux paroles que je n'ai trouvé pas ni au dictionnaire català, valencià, balear, que c'est le dictionnaire plus complet qu'il y a, je ne les trouvais pas. Quand j'étais petit, j'allais à l'école, et nous allons à l'école avec un uniforme typique. J'allais à une école religieuse jusqu'à 10 ans. À 10 ans, je suis allé au institut et j'ai changé. Et nous, nous disons un boubarai. C'est une parole minorquenne. Ciutadella podeu, boubarai, c'est une parole minorquenne. Les boubarais. Mais boubarais, c'est cet typique uniforme que quelques écoles, surtout les religieuses, on met. Parce que nous écrivons avec encre. Encre. Avec une plume de madera, de bois. On avait dit wood, non. En bois. Il y avait, on écrivait, on faisait de la calligraphie, quelquefois il y avait de. Et nous employons cet uniforme de Borail, une veste blanche. Et mon père était tailleur, tailleur de piel pour faire zapatos. C'est-à-dire, mon père, zapato, la piel. Il tenait, par exemple, je ne sais pas, il tenait une piel entière, une piel d'animal. Y él ponía, porque no podía tirar mucho, no, con una cuchilla que cortaba mucho, y él hacía la pieza. Y esta pieza era la pieza para hacer el zapato. Tenía que hacer toda la piel, toda la piel. Y recuerdo que cuando se paraba se ponía lápiz en la oreja y tal, y lo hacía sobre un taulell, creo, no sé en castellano o francés como dirían, una mesa alta, pero sobre la madera había, yo creo que era, ¿con qué estallar que sería? Sí.
Es un metal.
Es un metal, pero es un metal blando que cuando la cuchilla traspasaba la piel no se estropeaba, la afilaba. No sé, es estany, pot ser, estany.
Estany.
Sí.
Mira, ahora va a posar zinc.
Los cortadores de piel, como mi padre, a ese material que lo tenían todos, per quan la pell travessava, li deien enzim, enzim. I clar, jo vaig haver de posar enzim, si no saben què és igual, però és una paraula que no és a cap diccionari, a cap ni un, enzim.
I aleshores, Bubarais era com una bata.
Era com una bata de fiat d'escola.
De ratlles.
Sí, de ratlles blaves i blanques, típica de la sang.
D'acord. Sí. Sí, és veritat.
Jo tenia un problema, i és que moi j'étais le petit de Saint Cadet, j'étais le petit, i tota sa roba dels germans majors me passava a jo. I no vaig dur roba nova mai, mai vaig dur res nou, tot estava emprat. I cursaven, afegien i tal, i quan arribava jo ja estava fet pols, com els llibres. Hi havia una enciclopèdia, hi havia molt pocs llibres, i jo emprava els llibres dels germans, i quan m'arribava, jo era molt cuidadós amb la llibre, sempre he estat, i m'arribava a fer un desastre. Pintats, sense tapa, allò me feia una pena, però se va dir, se va dir. Que van ser feliços a nostre. Hi havia molt d'ambient, cinc germans, dos mascles. I mos estimam molt i mos duim molt bé. I això que tret som del Real Madrid. Però és igual, mos estimam.
Quan nosaltres vam treballar a classe, parlo català o peut-être en francès?
Oui, on peut parler français.
Mieux français, désolé.
Oui, mieux
français. On a travaillé en cours de poèmes estrangeirado. Et on a lu un peu votre biographie où vous parlez d'un conco. Un conco seu. Et on a cherché les mots, je pense que c'est l'oncle. C'est l'oncle.
L'oncle. Mais à Minorque, on dit conco.
C'est juste à Minorque ou
à Minorque.
Non, c'est pas
explique,
mais vous parliez de ça, oui.
Un conco frare que va ser frare confessor de papes. Esconco també diu una manera més, o de ses illes, direm. És una paraula, set in pagotip de les Illes Balears. No n'he dit un pare com a la Catalunya, l'oncle, no n'he dit un esconco, el tio, tio. D'acord? I moi, quan j'écris, j'essaie toujours d'employer les paroles. Si hi ha deux paroles, tout c'est catalan, parce que tout c'est catalan. Les minorcans, c'est un dialecte du catalan. Mais par exemple, si je dois écrire entre gat et moche, chat par exemple, entre gat et moche, j'écris moche, parce que chat, gat, je sais qu'il existe, mais nous ne disons jamais gat. Et j'ai cherché toujours l'authenticité quand j'écris. Et pour moi, c'est plus authentique mettre moche que mettre gâte. Cette petite décision, mais c'est important l'authenticité pour moi, la cohérence. Mais l'autre jour, je pensais à ce thème, parce que je parlais de la cohérence et de l'authenticité. Et je pensais, bon, oui, je cherche ça, mais il y a de la bonne authenticité, de la bonne cohérence. Et de la mauvaise aussi. Parce que j'ai pensé, les nazis, ils ont été cohérents. Oui, Hitler était cohérent parce qu'il oubliava les juifs et il a été cohérent avec soi-même. Il faut les liquider. C'est une triste cohérence, oui, mais. Et les nazis, ils ont été authentiques. Ils sont des odieux.
De la haine.
Pour les juifs, ils ont. Je pense que c'est ça, oui. Il y a de la bonne authenticité et il y a une authenticité qui est dangereuse aussi. Et une cohérence qui c'est compliqué. Hitler a dit, comme est-ce qu'il a dit, une phrase terrible. Je me souviens déjà, mais si je me souviens, je voulais dire, c'est une phrase qui exprime tout l'Holocauste, toute la bestialité. C'est une veine juive. Je me souviens, la compassion, c'est un invent juif. La compassion, ça c'est un invent. C'est terrible, ça. C'est...
Dans le poème d'un diatari anonyme attribué à Jorge de Cero, sí. Il y a un moment où vous disiez « Somme un tragique amour, una lengua cansada » et pourtant c'est traduit comme « Somos un tragique amour ».
Non, c'est un fallo del traductor. Non, aquí está la vía, aquí está la vía.
Perquè és un som de...
Plural, no? Una man sumitarra, vos li han dit, o vostès en el banc, etc. Sí, no, aquí és que hi ha un problema, clar. En català, vos sabeu, és sempre en català de Barcelona. El dir soc, il y a de la crise en français. Macron, il a de problèmes économiques. La différence entre soc, je suis et nous sommes. Mais à Minorque, ça n'existe pas. Nous toujours, je som, nous sommes. Et ça, quelquefois, peut provoquer une confusion. Mais ici, c'est bien. C'est nous.
C'est un son collectif.
Si, un collectif.
D'accord. Mais parce qu'après aussi, vous
reprenez
en pluriel
les
autres verbes.
Oui. Ici, il y avait une signification plurielle. Mais ça se fait à la
mais si ça, oui, ça pourrait provoquer une confusion, parce que ce qui se passe, c'est que vous parlez de vous-même, d'un collectif.
Si, moi ici, je parlais d'un collectif. Nous sommes, dans un poème, je parle de que nous sommes une langue à genoux aussi. Il faut pas vivre à genoux. La dignité, ça c'est sacré aussi. Nous ne devons pas perdre jamais la dignité. On peut perdre.
Avec
l'unité de l'empereur. C'est là. Moi, j'ai une
question.
Comment tu t'appelles?
Ainhoa.
Ainhoa, oui, ça c'est basque. Ah, voilà.
C'est toi qui as traduit mon poème au basque, ou mon... Tu es invité à ce tigre-là.
Merci. Est-ce que vous avez un mot que vous aimez particulièrement?
En français?
Et au contraire, s'il y a un mot que vous détestez?
Oui, il y a un mot que j'adore.
Non, pas en français, peut-être. En...
Ah non, oui, est-ce que... C'est pareil en français qu'en catalan. Oui. Il y a un mot que j'aime, un mot, quelqu'un de mot. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots que j'aime beaucoup. Mais il y a un mot qui pour moi c'est spécial. Et c'est le mot tendresse. Tendresse. Tendresse en catalan. Quelquefois, dans mes classes, je mettais quelques paroles parce que les élèves ne connaissaient pas. Tendresse, qu'est-ce que c'est ça? Et je m'exprimais la tendresse. J'adore la tendresse. Et il y a beaucoup de noms que j'aime pas. Serait fantastique ouvrir un dictionnaire et chercher paroles comme guerre, femme, haine. Il n'y a pas cette parole ici. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il a disparu. Il n'y a de guerre, il n'y a de femme, il n'y a de misère. Ça serait magnifique. Qu'une série de paroles, il disparaît. Parce que ça voudrait dire que le monde va mieux. Mais de toute tendresse. Et il y a une plante, j'ai beaucoup ce figuera verde, que la mouche. Je ne sais pas comment on dit en français, non, c'est une plante, il s'appelle que la mouche.
Je
ne sais
même pas
l'espagnol. Que la mouche, je ne sais pas l'espagnol.
Non.
Que la mouche, je vais le chercher. Que la mouche en castellan, la sonorité, mais tendresse. Et j'ai un conte inspiré à un homme basque. Une fois, j'ai lu un interview à Eduardo Chillida et on lui a demandé un nom de femme. Et il a dit Utsune. Et j'ai trouvé ce nom si joli, Utsune, que j'ai écrit un conte. Mon ami Pierre Ponce, qui c'est un peintre, a fait une gravure avec un morceau de ce conte. Utsune s'appelle en basque, un nom. Je crois que ça veut dire fleur sylvestre. Mais dans ma vie, il y a des noms très importants. Il y a le nom de ma femme, Roger. C'est un nom très joli, Roger. Vous savez ce que c'est, un Roger? Oui, il a quelques épines, quelquefois. Je ne peux pas dire rien. Roger, Llorenç, Ignasi, c'est mon fils. Et notre petit-fils, Joël Hidouk. Maintenant, Joël Hidouk, ça va être... Son nuestros nietos, c'est des noms magnifiques. Merci pour votre question.
Une petite requête. Ça me ferait beaucoup plaisir de vous entendre lire un de vos poèmes. On en a choisi un, mais si vous voulez en lire un autre. J'ai choisi Comme de la mer.
Oui, això és del Salor. Oui, si tu veus, oui, si vous voulez, la femme, jo vi un poem, oui, que m'he de llegir, sí?
Sí, tinc,
però... Com un renec, del Salor, oui. Se m'ha marxant, se m'ha... Com un renec. Sí, il y a una citació d'un poet grec que j'aime beaucoup, Yorgos Seferis, un grand poète grec. Et cette citation dit « Perquè les estàtues no són ja despulles, nosaltres som les ruïnes, parce que les estatues no són pare ja de ruïn, sinó de ruïn, dit aquest poète grec. Et le poème dit, un home sense arrels és un ser mort, una illa de ciment, un flac infern. Els estornells suosos tenen fam, emigren solidaris cap al sud. Els faunes fugen farts de veure gent,
que crida i deixa nafres dins el bosc. No dic que fos millor cap temps passat, escric només que em dol ser menorquí. La terra magra engreixa estranys i murs, l'oblit ha sepultat màrtirs i herois. Un llast de solitud mentre els conreus s'assequen fa feixuc el llarg camí que va esborrant i dur no mena un món. El dia s'ha cursat, els primers freds redossen caderneres entre els pins. Com poden els illencs no escoltar el vent que es queixa marc i plora avergonyit? Els bàrbars s'han fet seu tot el present, una altra llengua imposa el seu destí. El mar té un postmodern tel de betum, ja s'ha complert el temps dels assassins. Hi ha moltes referències d'altres obres aquí dins, però bueno, són del temps dels assassins, ve un poc de Rambó, en fi, ratlla d'estudisme, ratlla de una altra llengua imposa el seu destí, els castellans, el teu estil. Jo estudié filologia hispànica primero, yo soy licenciado en filología hispánica y luego, bueno, soy catedrático de lengua y literatura catalana, pero yo amo todas las lenguas, el castellano también es una lengua que la amo, la quiero, la respeto y la uso, y que coste. Pero lo que no quiero es que maten nuestra lengua, hemos de vivir todos, ¿o no? Mira, no me'n recordava d'aquest poema, no està malament. Crec que encara... I una cosa que jo me molesta molt, i ara veig que aquí ho dic, les faunes, aquesta imatge de l'alegria, del bosc, i que els faunes fugen farts de veure gent que crida i deixa nafres dins el bosc, És a dir, m'he fixat una cosa, la Roser mos hi han fixat, si jo, el soir, no som a l'imager, a quel cas restaurant, hier nous nous promenons pour le port de Luz, et com ho diria, a Espanya la gent crida molt més. Criden, no? A Toulouse passejaven, on se promenait, hi havia les persones parlant avec normalité, doucement, dans les restaurants, on mangeait. A Espanya! Oh, oh. Et une chose que je ne peux pas comprendre, je me promène beaucoup dans des bois. Je suis comme Rousseau, comme tu sais, j'adore les bois. Je ne peux pas comprendre qu'une personne s'est allée promener dans un bois et elle peut laser jeter une bosse de plastique, une bouteille de Coca-Cola, ça me rompt le cœur. Ça ne peut pas entendre. Donc, ça me molesta molt. Que la gent sigui bruta, que tinguin coses més descarrer i entrallen els poemes d'aquest. Bueno, hi ha un poema que m'agrada molt, és Tristia, un poema dedicat a Ovidi. Aquest és un poema que m'agrada molt, em solec recitar a vegades quan vaig a... I tal, que puc contar una anècdota. Me van convidar, no és que si no m'arrenya, on me invité a Irlanda, vaig anar a Irlanda a recitar. Jo havia de recitar en català i ho havia de traduir en anglès. En l'escenari hi havia 1.500 persones, eh? Segons la policia, 800 només, 1.500, era espectacular. I jo vaig veure que aquell s'acurava, els que havia de presentar amb el nom, a vegades tenir sentit de l'humor va bé. Jo no us ho deia, és a dir, jo el que no puc acceptar és el poeta aquell que ve i té por ser de poeta, saps? Aquell cara d'intel·lectual o de poeta, no, de ser persones. Bé, és que va sortir a dir tonight, the great poet Pons, jo passava una parada, the great poet Pons, i jo vaig sortir amb una bava ben decidit, agafa el micro, dic good night. My name is Pons. Com en James Bond. Bueno, va ser un èxit, aplausos. Allà em vaig fotre el públic dins la butxaca, amb això vaig imitar Bond, James Bond. I me'n recordo que allò va ser un èxit. I vaig recitar aquest poema de Christian, això ho dic perquè me demaneu que el reciti, i va ser un èxit, agradava molt aquest poema. Bueno, si no hi ha més preguntes, si no hi ha més preguntes, que jo estic encantat, eh? Si no hi ha més preguntes, que jo puc fer fins a les 10 del vespre, si voleu, però me les vull pensar. M'agradaria recitar amb vos un poema que jo m'agrada, que és Tristia. Adam, Tristia, gràcies. No, no ho sé, no, Maria. Pons. Quan jo estudiava de ti, quan jo estudia latón, que és gemel de latón, on estudia Ovidi, e on me faisé traduir l'art de mi, l'art de amar. Jo no m'acabava de... No sé, no li havia sentit. I sobretot, surtout, je comprenais pas, quand monsieur, qui s'avait séparé très fois, o sigui, havia divorciat tres vegades, bé, i amb sa quarta dona que tenia anava bé, perquè estaven separats, vivien quilòmetres fora i només s'entenien per carta, jo pensava aquest que m'ha d'ensenyar jo de l'arte de amar. No és gaire de fiar, aquest home, pensava. I no m'agradava. Però després vaig arribar a un poema d'ell que es diuen Tristia i uns que es diuen Pòntiques. És a dir, a Ovidi, que per jo era un home de sacot, buit, allò, tal, un niño pijo d'aquest, el desterren a Tomis, l'actual Romania. I es diu que estimava molt Roma, quan es va veure quan ell se via a Tomis i va sentir la nostàlgica, bueno, que jo he dit molt tant, i senyora, i fa un poema, Tristia, realment bons i sentits, i ara sí, això és Ovidi que jo vull. I per això vaig fer aquest poema que es diu Tristia, i ratlla un poc de tot, ratlla de l'amor, ratlla del sexe, ratlla de la fama, ratlla d'escriure, ho enteneu? I si voleu, bueno, amb això podem acabar. Jo encantat, el que vulgueu, ho dic per vosaltres, que no us vull. Però bueno, aquest poema sí que el vull recitar, i suposo que me n'en recordaré. Tristia. El darrer món de Tomis, obert de terra estranya, en una tomba ignota que el vent se li colpeja, pot ser visquis encara en el record d'antigues enamorades dones i et cantin vells poetes com jo mateix que l'he dit, madur, pausat als versos i plany d'orgut romànic, la nostra vida incerta. El temps que tot ho esborra, solida el teu prestigi i fa el teu nom de mestre per sempre inesborrable. Però ja clàssic, mite, amant d'amor ni el sexe, perdura i és inútil, lloré marcit la fama. Tots som llavor d'oblit, el salistre que corca, quaderns, carpetes, llibres, ho amara tot de sal. Ser feliç és un plagi, escriure un deure amarg. No vivim, les paraules ens desviuen i ens fan cercadors enfebrits de bellesa perduts, presoners d'una pàgina. Naufragam en gargots, a l'Olimp, pura ocera de castanyers i núvols que el càlid sol grec pesa, els déus també s'han mort. Tot és fum. I no hi queda ja res etern. Ovidi.